Chapitre 13. Le centre d'appel d'urgence envoie immédiatement des voitures de police aux deux extrémités du pont. 9 minutes plus tard seulement, la première voiture quitte la route de Nyköping, gyrophare allumé, et tourne dans l'étroit chemin de terre qui monte vers le pont en décrivant une courbe. Il n'est pas déblayé, et la neige poudreuse s'envole et vient frapper capot et pare-brise. Les policiers laissent la voiture à la culée du pont, puis s'engagent à pied sur la voie ferrée, en se guidant de leurs lampes de poche. Il n'est pas aisé d'avancer sur les rails. Les quatre voies fusionnent en deux, qui s'étirent haut, au-dessus de la zone industrielle de Björkuden et du bassin gelé. Des voitures passent sur l'autoroute en contrebas. Le policier en tête s'arrête et pointe le doigt. Quelqu'un a de toute évidence marché sur la voie de droite devant eux. À la lueur dansante des lampes torches, ils aperçoivent des empreintes de pas presque effacées et quelques éclaboussures de sang. La deuxième voiture de police arrive à ce moment-là à l'extrême opposé, à plus de 2 kilomètres de distance. Les pneus crissent quand Yassim Mohamed, gardien de la paix, engage la voiture le long de la voie ferrée. Son coéquipier, Frédéric Moskin, vient d'établir le contact radio avec leurs collègues sur le pont. Le vent rugit si fort dans les microphones qu'ils distinguent tout juste la voix, mais ils comprennent que quelqu'un s'est déplacé sur le pont tout récemment. Les phares éclairent une haute paroi rocheuse et la voiture s'immobilise. Frédéric coupe la communication, le regard dans le vide.
« Qu'est-ce qui se passe ?» demande Yassim. « Apparemment, ils se dirigent vers nous. Ils ont parlé de sang, non ? Beaucoup de sang ?»«
Je n'ai pas bien entendu.
On va jeter un coup d'œil, » dit Yassim en ouvrant la portière.
La lumière bleue du gyrophare balaye des sapins aux branches enneigées.
« Ils envoient une ambulance !» dit Frédéric.
La neige fraîche n'a pas encore durci et Yassim s'y enfonce jusqu'au genou. Il détache la lampe torche de sa ceinture et éclaire les deux voies. Frédéric glisse sur le ballast en voulant y monter, mais retrouve vite son équilibre.
« Quel est l'animal qui a un deuxième trou du cul au milieu du dos ?»
demande Yassim.
« Je ne sais pas, » murmure Frédéric.
L'air est tellement saturé de neige qu'ils ne distinguent pas les faisceaux des lampes de poche de leurs collègues à l'autre bout du pont.
« Un cheval de la police monté !» répond Yassim. « T'es con, putain !»« C'est ma belle-mère qui racontait ça au môme !» sourit Yassim.
Ils arrivent maintenant sur le tablier du pont. La neige est vierge de toute marque de pas. Soit l'homme se trouve encore sur les voies, soit il a sauté. Les caténaires au-dessus de leur tête sifflent singulièrement. Le terrain au-dessous est en pente escarpée. Ils discernent les lumières de la prison de Halle non loin. L'établissement pénitentiaire brille comme une ville sous-marine. Frédéric essaye d'entrer en contact avec ses collègues, mais la radio ne transmet que les hurlements du vent. Ils avancent avec précaution. Frédéric se tient derrière Yassim, une lampe torche à la main. Yassim note les mouvements insolites de sa propre ombre sur le sol, oscillant de droite à gauche. C'est bizarre qu'ils ne voient pas encore leurs collègues. Au-dessus de l'eau gelée du bassin, le vent de la mer est déchaîné. La neige vole dans leurs yeux et le froid engourdit aussitôt leurs joues. Yassim plisse les yeux pour mieux voir. Le pont devant lui disparaît dans une obscurité tourbillonnante. Tout à coup, il aperçoit une silhouette à l'extrémité du faisceau de sa lampe. Un grand bonhomme sans tête, comme un dessin. Yassim glisse. Sa main cherche le modeste garde-fou. Il voit de la neige tomber 50 mètres plus bas sur la glace. La lampe de poche heurte la rambarde et s'éteint. Le cœur de Yassim s'emballe. Il scrute de nouveau le pont, mais ne voit plus personne. Derrière lui, Frédéric crie quelque chose et il se retourne. Son collègue lui fait signe de la main, mais Yassim n'arrive pas à entendre ce qu'il dit. Il semble effrayé, tâte l'étui de son pistolet. Et Yassim comprend subitement qu'il essaye de le mettre en garde, qu'il montre quelque chose derrière son dos. Il se tourne et inspire profondément. Un homme rampe sur la voie, droit vers lui. Yassim recule instinctivement et essaie de dégainer son pistolet. L'homme se met péniblement debout sur des jambes chancelantes. Il est jeune. Il fixe les policiers d'un regard vide. Son visage barbu est maigre et ses pommettes saillantes. Il titube, semble avoir des difficultés à respirer.
« L'autre partie de moi est restée sous terre, » dit-il dans un halètement.
« Vous êtes blessé ?» demande Yassim. Qui ?
Le jeune homme tousse et tombe à genoux. Frédéric pose une main sur le holster de son arme de service.
Est-ce que vous êtes blessé ?
demande Yassim encore une fois.
Je ne sais pas. Je ne ressens rien, je...
Ne craignez rien, venez avec moi.
Yassim l'aide à se relever. Sa main droite est couverte de sang gelé.
Je ne suis que la moitié. Le marchand de sable, il a pris l'autre partie.